France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Peut-être ne vous souvenez-vous plus des titres de ces films. Peut-être les avez-vous vus avec un a priori défavorable, série B, pourquoi pas série Z, angoisse spaghetti, drame kitsch. Mais ne le niez pas, vous avez marché, vous avez sursauté, vous avez fermé très provisoirement les yeux sous l'effet de la terreur recherchée par le metteur en scène Dario Argento. L'émission Mauvais genre qui suit, diffusée pour la première fois sur France Culture en 1999, rafraîchira votre mémoire et réveillera vos angoisses.
Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Le 3 février dernier sortait sur les écrans Le Fantôme de l'Opéra, 14e film de Dario Argento, démiurge italien de l'épouvante maniériste et du thriller baroque. Le Maître, qui était à Paris pour présenter son film, a accordé à Mauvais genre un entretien que je vous propose d'écouter ce soir. Mais avant d'entendre Dario Argento nous parler de ce fantôme de l'opéra et puis également du cinéma, de sa conception de l'horreur, de l'esthétique et de l'épouvante, eh bien Jean-Yves Bocher, Martin-Pierre Baudry, quelques précisions sur Dario Argento.
Ben, si on devait schématiquement présenter la carrière de Argento, on pourrait la découper en trois périodes, à commencer donc par celle qui a fait de lui le maître du giallo. Alors le giallo, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est le policier horrifique, une spécialité transalpine héritée d'un film mythique, Six femmes pour l'assassin de Mario Bava, qui va définitivement codifier les règles du genre et que Argento va reprendre tous les tics maniéristes, c'est-à-dire des couleurs vives, un rouge aveuglant, des cadrages très minutieux, et puis tout un jeu de miroirs et d'images à double fond. Ce qui fait que dès son premier film, L'oiseau au plumage de cristal, en 1969, on a véritablement affaire à un styliste absolu qui doit autant à Bava, au Hitchcock de Psychose, qu'aux œuvres picturales de Chirico, de Le Caravage, Mondrian, et puis également Edward Hopper, dont un des tableaux, Le Night Hawks, va servir de base à son chef-d'œuvre qui est Profondo Rosso en 1975.
Jean-Yves Bocher.
Profondo Rosso, qui a été traduit sous le titre, je précise quand même, Les frissons de l'angoisse.
Précisions sur Dario Argento.
À partir de 1977, il va concevoir et réaliser ce qu'il appellera Les Trois Mères, avec comme premier film Suspiria. Les Trois Mères étant tirées de Thomas de Quincey. Suspiria ayant pour sous-titre un peu Suspiria Tenebrarum. Ensuite, il va continuer avec Inferno et terminer son cycle avec la fausse fin d'un cycle qui en fait ne termine pas complètement. Il lui reste à faire la troisième mère puisque le troisième film de cette partie s'appelle Ténèbres et n'appartient pas tout à fait au genre. Et avec ces trois films-là, il se sépare un peu du giallo. Il rentre vraiment dans le cinéma proprement fantastique.
Martin-Pierre Baudry, donc dernier aspect, un peu troisième volet du polyptyque Argento.
Oui, enfin, c'est très schématique. Disons son film Phénoména en 84, jusqu'à aujourd'hui, Dario Argento développe une sorte de rituel sadique autour de frêles jeunes filles qui sont comme de modernes Alice au Pays des Merveilles, perdues dans un conte de fées aux allures de cauchemar et de corrida. Et c'est d'autant plus troublant dans ces trois derniers films qui sont donc Trauma, Le syndrome de Stendhal et donc ce fantôme de l'opéra, que la propre fille du réalisateur, Asia Argento, tient le rôle titre. Ce qui ne manque pas de créer un effet d'angoisse et de suspicion assez délicieux.
Alors ce réalisateur-là qu'on va entendre pendant 40 minutes nous parler du fantôme de l'opéra, comment peut-on le différencier de ses contemporains et de ses collègues, entre guillemets, du cinéma d'épouvante italien? Puisqu'il y a quand même toute une tradition de l'épouvante en Italie. Est-ce qu'on peut dire que Argento, c'est un peu le caravagesque et le grand maniériste, le grand baroque?
Ben c'est effectivement quelqu'un qui s'inspire beaucoup de peinture, enfin qui est très inspiré au niveau pictural. Il y a une grande différence avec les films d'horreur classiques, qu'ils soient italiens ou autres, c'est que d'abord les décors sont extrêmement léchés, comme l'a précisé Martin Pierre au départ. C'est un peu Mario Bava qui a lancé donc le giallo, et donc avec des décors, avec des dominantes, des couleurs très vives, des couleurs souvent très rouges, des décors parfois même assez grandiloquents. Un sens de l'image qui frôle parfois, qui de temps en temps, un sens de l'image qui va parfois vers l'absurde carrément, et puis cette façon qu'a particulièrement Dario Argento de jouer avec le spectateur, c'est-à-dire que toujours dans ses films il y a une image, une souvent au début du film, que le spectateur n'a pas le temps réellement d'interpréter, et qui est en fait un petit peu la clé de toute l'histoire qu'il va raconter, et que le spectateur pourra revoir à la fin, et qui décryptera tout le film lui-même.
Toute une dimension d'horreur psychique. C'est-à-dire que les personnages, ce ne sont pas simplement des vecteurs d'épouvante, ils vivent eux-mêmes des angoisses et des tourments qui se répercutent sur l'image.
Oui, on peut dire ça de cette façon-là, où il y avait des intrigues assez complexes souvent, et souvent même où on a l'impression un petit peu de temps en temps, d'ailleurs Gento lui-même se perd dans son intrigue à travers comme ça des couloirs, des décors, une fascination, comme il le dit lui-même, pour les rideaux, pour l'eau.
Enfin, on va nous en parler dans quelques minutes. Alors, Dario Argento, on peut signaler ses autres activités, puisqu'il n'a pas été que cinéaste. Avant d'être cinéaste, il a été, Martin Pierre Baudry, critique.
Oui, critique de cinéma, et puis également scénariste. Hein. Scénariste pour des films de genre, des films de guerre, des westerns, dont un particulièrement connu.
Qui est Jean-Yves Bochet.
Il a été co-scénariste avec Bernardo Bertolucci, Il était une fois dans l'Ouest, de Sergio Leone.
Donc, nous allons entendre là pendant 40 minutes... Dario Argento nous présentait Le fantôme de l'opéra, qui est sorti, je le répète, depuis le 3 février sur les écrans, film où joue sa fille Asia Argento. On peut signaler, alors là ça ne concerne pas Dario Argento, mais ça concerne le cinéma d'épouvante italien, que Jean-Pierre Dionnet, qui était l'invité de Mauvais Genre il y a quelques temps, s'illustre par un festival Mario Bava, Martin-Pierre Baudry.
Oui, donc un festival Mario Bava où on pourra voir 5 grands films donc de Mario Bava, Le Masque du Démon, Opération Peur, dont un visiblement inédit, Chien enragé, donc qu'on va découvrir à cette occasion.
Jean-Yves Bochet.
Je rajoute La fille qui en savait trop, Les trois visages de la peur.
Donc festival Mario Bava qu'on ne pouvait pas ne pas signaler sur Canal+, mais également rétrospective Dario Argento à la Cinémathèque en ce moment, donc pour les cinéphiles parisiens, où on peut voir quasiment tous les 14 films faits par Dario Argento, y compris même...
Historico-comique qu'il avait fait au début des années 70, qui s'appelait Martin Pierre.
La Cinque Giornate.
Voilà, bah écoutez, merci pour cette présentation. Je vous propose maintenant d'écouter Dario Argento, qui était avec nous à Mauvais Genre il y a quelques jours, et qui nous a donc présenté abondamment et le fantôme de l'opéra, et puis ce qui est pour lui le credo de son cinéma et de son esthétique. Donc, je vous laisse avec Dario Argento. Alors Dario Argento, première question, ce fantôme de l'opéra est l'œuvre à l'origine de Gaston Leroux. Quel rapport avez-vous avec le personnage et l'œuvre de Gaston Leroux? Est-ce que c'est un auteur?
Mon auteur préféré, mais il a écrit ce fantôme de l'opéra, qui c'est une histoire très importante, très intéressante, qui a inspiré beaucoup de gens, parce que pourquoi ils ont eu tant de remake des films de Fantôme de l'Opéra, parce que l'histoire c'est vraiment vraiment bien. J'ai lu des autres choses de Gaston Leroux, mais c'est pas au même niveau, mais les personnages du fantôme, c'est un des
Rotabille et Chéri Bibi vous intéresse moins que le spectre qui hante l'opéra.
Cette histoire m'a intéressé, c'est le Fantôme de l'Opéra, exactement. Les livres et ces personnages, les personnages du fantôme, son expression, ça, c'est pour moi comme l'homme nouveau qui arrive, non? C'est un nouveau esprit, l'homme nouveau qu'on attendait aussi dans l'autre siècle, non? Qu'on attendait, qu'il y avait Marx qui l'attendait, tout le monde l'attendait. Alors, le nouveau qui était sauvage un peu, primitif, sincère, pur, peut-être, mais une autre personne.
Comme un
messie. Je pense qu'il incarne cette vision de l'homme nouveau pour Gaston Leroux.
Jean-Baptiste Torré, Dario Argento a croisé de nombreux autres auteurs dans sa carrière de cinéaste. On peut peut-être lui poser des questions sur ces auteurs.
On sait déjà l'admiration que porte Dario Argento à des auteurs comme Edgar Poe, Thomas de Quincy. Mais j'aurais voulu savoir quel était votre rapport avec notamment la Divine Comédie de Dante et son travail justement sur l'enfer, le purgatoire et le paradis. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez connu très tôt, qui a bercé votre enfance et éventuellement qui vous a inspiré?
Non, pas beaucoup. Non, m'a pas beaucoup inspiré. Non. Peut-être que parce que en Italie on étudie à l'école, alors on devient quelque chose contre.
Un peu scolaire, non? Quoi.
Sì, c'est scolaire et te présente des professeurs qui in realtà n'aiment pas vraiment l'auteur, qui font pour routine de dire quelque chose. Alors il te vient. J'aime plus les auteurs que moi j'ai découvert moi-même, tout seul. Comme ça, comme vous avez dit, Thomas de Quincy, comme Edgar Allan Poe, comme des autres.
Jean-Yves Bochet.
Puisqu'on parle d'écrivain, vous venez d'adapter donc un livre de Gaston Leroux. Est-ce que plus généralement, la littérature populaire est un genre qui vous inspire? Est-ce que vous avez puisé des thèmes ou des idées dans la littérature populaire, qu'elle soit italienne, anglaise ou française?
Non, la première fois, parce que j'ai déjà fait un film extrait d'un texte, que c'était d'Edgar Allan Poe. Du conte de Chat Noir. Mais moi, rarement, m'inspire à la littérature populaire ou non populaire, non, rarement. Je pense que le cinéma, c'est une spécifique qui s'inspire de soi-même. Ils ont des inspirations qui sont cinématographiques. Son monde, c'est le cinéma et l'histoire, c'est une histoire filtrée par le cinéma. Alors, c'est pour ça que pour moi, les années 30 sont des films qui parlent des années 30 et sont, je pense, le document le plus pur sur les années 30, comme sur beaucoup de choses. Le cinéma reflète beaucoup sur le cinéma, pour mon avis. Hein.
On pourrait conclure avec cette évocation de vos écrivains, Dario Argento, en revenant rapidement à Thomas de Quincy avec Mater Tenebrarum, Mater Lacrimarum, Mater Suspicium. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette mythologie des trois mères qu'a inventée de Quincy?
C'est le contraire qui est très intéressant, que la mère, dans Thomas de Quincy, c'est la mère qui donne la mort, non? C'est l'opposite, ça, c'est très intéressant. Mais aussi, sa vision, mais il est seulement 3-4 lignes dans l'œuvre de Thomas de Quincy. Il m'a inspiré beaucoup, mais ce n'est pas un roman.
Oui, c'est ça,
roman.
C'est trois noms qui vous ont suffisamment forts.
Trois noms seulement, qui m'ont inspiré à faire une sorte de trilogie, de raconter ces trois mères. Et parce qu'il avait dit aussi qu'il habite partout dans l'Europe. Alors j'ai localisé un peu dans le monde, j'ai localisé dans trois endroits.
Et ça a donné trois films, Jean-Baptiste Torré, qu'on peut citer.
On a surtout Suspiria, que Dario Argento a réalisé en 1977. Ensuite, il y a Inferno en 1980. Et en fait, cette trilogie reste encore aujourd'hui inachevée, puisqu'on attend toujours le troisième volet de la fameuse trilogie des mères. Quoi. Même puisque Argento réalisera en 1982 Ténèbres, alors que tout le monde attendait le troisième volet de la trilogie. Donc des mères de Quincy.
Alors Dario Argento, vous nous dites que le cinéma se nourrit de lui-même, qu'il se nourrit d'histoire, beaucoup plus que de littérature, de vision et surtout de le cinéma. Parlons justement de la tradition cinématographique autour du fantôme de l'opéra, avec notamment les films de Lon Chaney, d'Arthur Lubin et Terence Fisher. Quel rapport entretenez-vous avec cette tradition qui vous a précédé?
Les fantômes de l'opéra, dans les films de Lubin, c'était le premier film d'horreur que moi j'ai vu dans ma vie. Je me rappelle très bien, j'avais 9 ou 10 ans, je ne me rappelle plus exactement. J'étais en vacances à la montagne avec mon frère et ma famille. Et il y avait une sorte de ciné-club qui faisait une rétrospective des films d'horreur du passé. Et nous sommes allés, nous a permis d'aller voir Le fantôme de l'opéra de Claude Rains. C'est le film en couleur. Et ça m'a touché beaucoup. Ça a changé beaucoup de choses parce que m'a découvert un monde comme si quelqu'un a ouvert une porte devant moi et derrière cette porte il y a un monde incroyable, un panorama sombre, terrible où des gens ils pensent des choses épouvantable. Et ça, c'est pour ça que j'ai, c'est comme une sorte de... que je dois. mais quand j'ai vu le film après, je l'ai revu encore, le film de Claude Rains, il y a quelques années, je pensais que c'était vraiment stupide, c'était un film vraiment idiot, et aussi moraliste, dans une façon vraiment dégoûtante. Et ça, comme on est différent, quand j'avais 9 ans, pour moi c'était un film vraiment terrible. Et puis il y avait les films que j'aime beaucoup de toutes ces choses, c'était les premiers. Le film de Lon Chaney, c'est le seul film qui a été tourné à l'Opéra de Paris. Et puis, il avait des scènes en couleur dans les 25, c'était un expériment incroyable. Et puis, c'est le seul qui a respecté les romans de Gaston Leroux. C'est vraiment le seul, les autres ont trahi tous. Il y a aussi des scènes de peur qui sont vraiment... Les souterrains sont recréés d'une façon magnifique. Et c'est quand j'ai vu ce film que j'ai eu l'idée de faire le film sur le fantôme de l'opéra. En me rappelant aussi, dans le passé, que c'était le film qui a marqué mon enfance.
Alors vous aviez 9 ans, vous voyez ce film. Quelles sont les images qui créent l'appel? Qu'est-ce qui vous a appelé dans ce film? Les décors, l'expression des visages, le
non,
climat?
Non, c'est le fait que cette personne il vit dans les souterrains, qu'il vit avec les rats, avec l'eau infecte, et qu'il monte parce qu'il y a une jolie fille, vraiment jolie, et lui, si horrible, l'aime. Et ça m'a vraiment touché.
On peut peut-être évoquer, Jean-Yves Bauchet, le rapport de Dario Argento avec d'autres cinéastes, d'autres figures du cinéma, comme Fritz Lang, par exemple.
Oui, justement, on a l'impression quand même que dans le Fantôme de l'Opéra, vous êtes très influencé par certaines scènes ou certaines façons de voir les choses de Fritz Lang.
Si, sûrement. Moi, je viens de la critique. Quand j'étais très jeune, j'étais critique, premier travail que j'ai fait. Et toujours, j'étais très influencé par Fritz Lang et l'expressionnisme allemand en tout. Dans plusieurs films, on voit beaucoup Fritz Lang. Et dans un film que moi j'ai fait, qui s'appelle Quatre mousses de vélo gris, les protagonistes habitaient à rue Fritz Lang. ça, on les voit. Avec des autres influences, vraiment. Des autres qui paraissent très différent de l'expressionnisme allemand. J'étais très influencé par une sorte de post-expressionnisme qui c'était le cinéma américain des années 40, noir, qui c'était une sorte de post-expressionnisme comme photographie, comme thème, mais aussi du cinéma. J'étais très influencé par le cinéma de recherche, le cinéma comme le cinéma d'Andy Warhol. Et le cinéma de la Nouvelle Vague, et le cinéma de Ziga Vertov, et de toutes ces choses, les recherches, moi, m'ont beaucoup aidé à imaginer mon cinéma, toutes les recherches, toutes ces choses, tous ces films, ma, plus y encore. Aussi, on ne peut pas oublier les grands Hitchcock, sûrement, qui était un peu l'ennemi de Fritz Lang, parce que. Un accusait l'autre de voler la lumière, les séquences, parce qu'on disait que Hitchcock faisait un film de cinéma post-expressionniste, Fritz Lang l'accusait de ça, non? Et Hitchcock accusait Fritz Lang de faire un cinéma trop dédié au studio, alors, comment c'est?
Jean-Yves Bauchet?
Oui, vous parliez de cinéma post-expressionniste américain des années 40, j'imagine, enfin, que quelqu'un comme Robert Siodmak, avec ses films noirs américains, doit être une de vos influences.
Sûrement. Ouais. Lui, c'est un des cinéastes expressionnistes qui sont allés en Amérique, qui ont fait ce courant qu'on appelle post-expressionnisme, non? C'était très important. au niveau de l'histoire, qui a fait beaucoup de changements au niveau d'histoire, au niveau aussi d'un certain moralisme qu'il y avait dans les cinémas américains traditionnels, non, des années 30, que c'était tout bien, tout passe bien, tout c'est magnifique, la vie c'est magnifique, nous sommes pauvres, mais c'est beau être pauvre, plus pauvre, plus sera beau. Et tu es rien et tu deviens président de la République. Ça, avec la guerre, ça a changé tout. Parce que tout d'un coup, ces jeunes gars américains ont trouvé la mort en face et ont découvert une vision de la vie un peu plus sombre, un peu plus triste et pessimiste. Et alors, c'est cette vague des années 40, 50, des films, la plupart des Européens, comme Jacques Tourné, qui a fait des chefs-d'œuvre des années, j'ai dit, cette période, non? Vraiment des chefs-d'œuvre comme.
Vaudou, Capitole,
en français, je ne les connais pas les titres en français, mais ils sont La Masque du Démon, je pense, non, qui s'appelait.
Là. Non, c'est le Rendez-vous avec la peur, Curse of the Demon.
Oui, Curse of the Demon.
Revenons à ce fantôme de l'opéra, Dario Argento. Parlons du personnage du fantôme. On observe que vous lui avez fait subir un traitement. C'est un personnage qui est beau, qui est blond, qui a un visage assez noble, qui va à rebours complètement de la tradition plastique du fantôme de l'opéra, le personnage, au cinéma. Alors, quelle a été votre intention dans la conception et la reconception du personnage?
Oui, moi, pas consciemment, inconsciemment, dans mon profond, mais quand j'ai abordé les films, j'avais une idée de renverser un peu les choses, de tous les remakes des films qui moi, j'ai détesté. Surtout la version qui avait faite Englund, qui était un ami à moi, mais les films, c'était vraiment, vraiment...
On peut dire, Jean-Baptiste Torré, qui est Englund?
Bah, qui est Freddy,
voilà,
Freddy.
Pour
la génération. Oui.
Alors, moi, j'avais pensé de renverser beaucoup de choses. Alors, toutes les scènes qui ont été très importantes, les fondamentales dans les autres films, comme la chute du chandelier, moi, je l'ai fait en comique, moi, je l'ai fait en ironie, no, en grotesque. Et toutes les choses qui appuyaient les autres films sur le visage horrible du fantôme, moi, j'ai changé, j'ai fait... Qui sont, ces choses horribles sont dedans, sont dans son poitrine, dans son intérieur, dans sa main, dans son cœur. On dit que c'est un peu trop romantique, mais c'est dans son, à l'intérieur, non? Cœur des ténèbres, alors. Et alors, c'était plus important de voir, dans tous mes films, il n'y a pas vraiment de monstres, jamais. J'ai abordé des monstres, de mes films sont toujours des belles femmes ou des beaux hommes, des gens avec un beau visage, une belle corporature. Moi, je pense que les ténèbres sont intérieures, ne sont pas dans le visage. C'est trop facile de faire un visage déturpé, comme on l'a fait dans plusieurs films. Et aujourd'hui, à l'époque des grands effets spéciaux, nous avons vu des visages que personne n'a jamais imaginé. Avec le numérique, no? Avec toutes ces choses, on peut faire vraiment des choses incroyables. Alors j'ai pensé qu'aujourd'hui, moi je ne suis pas impressionné par un visage d'un homme qui a brûlé. Vraiment, je ne suis pas impressionné. Je pense aussi un peu de tendresse. Je peux avoir sympathie. Mais pas, je dis, oh, horrible. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont comme ça. Nous ne sommes pas dans les années passées, non? Nous avons une culture un peu différente. Et alors, je pense que ça qui vraiment est dur, c'est quand le noir, c'est à l'intérieur, pas à l'extérieur.
Mais Dario Argento, on peut quand même signaler une chose, là, c'est qu'effectivement, ce personnage qui ressemble un peu à l'organiste Rick Wakeman, qui était un musicien de rock des années 70, comme ça, avec des grands cheveux blonds, très bien peignés, un profil de médaille, malgré tout, il commet des crimes de sang particulièrement effroyables. Donc il y a une sorte de contradiction entre le corps de ses victimes et puis son apparence qui est toujours... Il n'a pas l'air d'une bête.
C'est ça que j'avais vous dit, non, c'est que l'aspect extérieur, c'est... c'est seulement un masque pour moi. C'est l'intérieur qui est important. C'est dans l'intérieur qui lui est cruel, qui est noir, qui est horrible, qui est peut-être horrible. Pour moi, ce n'est pas vraiment horrible.
Catherine Cayava.
Mais on a l'impression dans tous vos films que les personnages, même les plus sombres, les plus criminels, sont toujours un peu bifaces. On peut toujours les racheter, on peut toujours les comprendre. Et on a l'impression que vous voulez que le spectateur se pose d'abord la question est-il bon, pourquoi est-il mauvais, au lieu de condamner systématiquement.
Si, si. Mais vraiment pas la question exacte qui est pourquoi être contre. Parce que moi, j'ai une sorte de participation à la... ou ces personnages monstrueux, ou soi-disant, ou les assassins, non, comme on dit. Je pense que je participe beaucoup, parce que je pense qu'il y a beaucoup de raisons, d'histoires. Et aussi parce que mes films ils viennent du rêve, la plupart. Ils sont aussi rythmes du rêve. Et dans les rêves, les personnages méchants ou horribles, on les voit dans une sorte de sadomasochisme, non? Qu'ils viennent et tu peux avoir aussi des rapports, puis tu t'enfuis, puis tu veux les connaître, tu aussi les mitises un peu. Et alors, c'est ça que moi je fais.
Vous avez dit dans une interview il y a un certain nombre d'années que pour vous, l'angoisse était la clé du rythme.
C'est.
Est-ce que vos films marchent à l'angoisse comme d'autres marchent au canon? Est-ce que c'est la pulsation le rythme est donné par le sentiment?
Non, je disais le rythme des racontes, non? Le rythme du raconte, il donne l'angoisse, parce que c'est seulement ça, c'est le rythme. Comme le rythme de la musique qui te donne une phrase musicale, s'il n'y a pas de rythme, il n'y a pas de phrase musicale. Comme ça, le rythme de mes films, il donne la suspense, non? Il donne ça. C'est seulement une question de cadrage, de lumière, une sorte de composition.
Jean-Yves Bochet.
Oui, mais alors justement, en parlant de rythme et d'angoisse, donc pour revenir au fantôme de l'opéra, dans ce film, il y a quelque chose d'assez particulier par rapport au reste de votre œuvre, c'est qu'il y a d'abord une histoire extrêmement romantique, extrêmement lyrique, il y a des moments d'horreur purement gore qui sont dus essentiellement au personnage du fantôme, et puis il y a un côté, je dirais, burlesque, grotesque, notamment avec le tueur d'orage, j'imagine qu'on y reviendra. Pourquoi avoir voulu comme ça mêler dans un même film trois aspects extrêmement différents?
Ça, j'écris le film avec Gérard Brash. Nous avons parlé beaucoup de ça avant d'écrire le film. Nous avons vu que dans les romans de Gaston Leroux, il avait tous les trois aspects. Et alors, nous avons pensé de respecter cette chose, de ne pas canceller l'aspect grotesque ou un peu ridicule qui prenait le monde de l'opéra, no? Il avait un sorte de... On comprend qu'il lui connaît très bien le monde de l'opéra, Gaston Leroux. Et on le comprend aussi qu'il lui il a une sorte de méprise pour les caprices, pour cette fixation, cette exaspération du monde de l'opéra, que tout le monde se sent artiste, génial, magnifique, énorme, et les maladies deviennent terribles, et les passions sont... il y a beaucoup de légendes sur les passions des fameuses divas. Et alors, je pensais que lui prenait beaucoup pour un peu burlesque. Et là, nous avons respecté cet aspect. Et lui, je me rappelle que Brash me disait presque chaque jour, n'oublions pas l'aspect ironique et burlesque. N'oublions pas ça. C'est vrai, ça. Il avait raison.
Jean-Baptiste Torré.
Oui, dans le film, Julian Sands dit à un moment donné qu'il n'est pas un fantôme mais un rat. Et on pense notamment au rat d'Inferno en voyant le fantôme de l'opéra. Et on sait que vous avez une grande tradition d'utilisation des animaux dans vos films, Phenomena. Et quel rapport entretenez-vous justement avec les animaux dans le cadre de vos scripts et pourquoi leur donner une importance telle? Sachant que pas un seul rat n'a été blessé pendant le tournage du fantôme de l'opéra. Donc il y a même cette espèce d'exigence là, quoi.
Ouais. Mais ça, c'est une des choses qui, moi, un peu inexplicable pour moi. Je vous demande, moi aussi, pourquoi dans presque tous mes films, il y a de l'eau et les gens, ils vont plonger dans l'eau. Pourquoi il y a toutes ces femmes dans mes films? Pourquoi? Pourquoi sont des protagonistes dans les derniers 15 ans, sont toutes des femmes? Pourquoi il y a toutes ces portes, tous ces couloirs? Pourquoi dans presque tous les films, il y a un théâtre? Pourquoi tous ces rideaux? Il y a des rideaux très importants pour moi, les rideaux. pourquoi toutes ces choses? Je ne sais pas. Il y a des choses que moi, je ne sais pas. Pourquoi les animaux? Moi aussi, moi, je demande. Moi, quand j'écris un film, tout d'un coup, il vient un animal. Je ne sais pas. C'est une sorte de chose qui est naturelle pour moi. Aussi, moi, je suis enthousiaste de filmer les animaux. Il y a un grand enthousiasme. Je pense qu'ils sont une présence magnifique, vivante dans un film. Les animaux qui sont les rats, qui sont les chiens. J'ai usé beaucoup. Ils ont les singes. Ils ont
les mouches.
Les mouches. Les, oui.
Il y a un batteur qui tue une mouche avec sa cymbale.
Mais aussi dans les mouches, dans les
phénoménal,
oui.
Dans phénoménal, il y avait les mouches, il y avait les bombos. C'est bombo, bombo bees. Les bees, comment ça s'appelle?
Les abeilles.
Il y avait beaucoup des insectes dans le film. Les mouches. Mais aussi les chiens, aussi les singes, aussi les chats.
Le chat, c'est la tradition d'Edgar Poe.
C'est vraiment. J'ai fait un film sur les chats, les chats noirs. Et j'ai deux chats noirs à la maison. Et alors, il y a un de ces chats noirs, il a la tache blanche sur la poitrine, comme décrit par Edgar Allan Poe, qu'il dit que cette petite tache blanche, il y a quelques types de chats noirs qui l'ont. Et il dit que c'était un dessin qui peut donner le futur. Et alors, un des chats noirs que j'avais, il a cette tache blanche. Alors, j'ai commencé à le regarder, à lui, sur la table. Lui se faisait regarder, il va regarder tous les visages, les mouvements de la tête, così, comme ça. Et alors, pour m'inspirer pour les films que j'ai tournés en Amérique, où était très difficile, a été vraiment très difficile de trouver un chat noir bien. Parce que la belle race de chats noirs existe seulement en Europe, qui sont grands, les chats noirs grands, forts, non? Et en Amérique, c'était très difficile. J'ai perdu, je pense, un mois pour les trouver, grands. Parce que j'ai trouvé tout petit, c'est une race très petite. Les chats noirs européens sont grands, sont forts, ils ont une grande puissance.
Jean-Baptiste Torré, ce film, Le fantôme de l'opéra, tourné par Dario Argento, est un gigantesque piédestal pour le personnage de la cantatrice Christine Daae, qui est joué par Assia Argento. Alors on pourrait évoquer un petit peu le personnage de l'actrice à l'intérieur, justement, dans tous les films où son père l'a fait tourner. Et puis le personnage, la manière dont, effectivement, apparaît dans cette version du fantôme de l'opéra, le personnage de Christine Daae.
Ben, en fait, Assia Argento a tourné donc trois films avec son père, Dario Argento, donc Trauma, Le syndrome de Stendhal et Le fantôme de l'opéra. Et il me semble que dans Le fantôme de l'opéra, il y a quelque chose de très émouvant. Je pense notamment à la toute fin du film, quand le fantôme se sacrifie pour laisser aller Christine Daae, jouée par votre fille, vers la lumière. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose là qui était presque de l'ordre du rapport d'un père à sa fille qui se sacrifie pour elle, pour qu'elle parte vers la lumière. Je voudrais savoir quel rapport vous avez entretenu avec elle pendant le tournage et si cette fin n'est pas une sorte d'écho, une sorte de cadeau que vous faites à votre fille.
Bah, c'est pas vraiment un cadeau que je fais à mes filles, mais c'est un film. C'est un film, c'est pas un cadeau, c'est un travail dur aussi. Aussi, c'était un peu plus dur pour moi et pour elle, parce que nous avons pensé de faire des scènes aussi où on le voit nudité, une scène d'amour, parce que j'avais beaucoup envie de montrer la charnalité de fantômes qui, dans tous les autres films, sont moralistiques, que on voit qu'ils vont et puis un rideau se serre et on sait qu'est-ce qui passe. Personne ne peut dire qu'est-ce qui passe. Ils se regardent, peut-être. Moi, je pense qu'ils font l'amour. Qu'ils font l'amour comme des animaux. Et j'avais pensé qu'elle perd sa virginité avec lui. Et là, nous avons tourné cette scène longue, presque 3 jours de travail. C'était terrible pour moi et pour elle. Parce qu'on peut dire que moi, je suis metteur en scène, elle est actrice, et c'est normal pour nous. Ok, c'est normal pour moi de travailler avec une femme nue, aussi un couple qui fait l'amour, ça ne me touche pas vraiment. Mais si ça, cette femme est ta fille, ça devient quelque chose d'un peu dur à supporter. Et pour elle aussi. Alors, sûrement, ça a été la chose la plus dure du film pour nous, pour tous les deux. Elle a pleuré beaucoup, moi aussi. Moi, je n'ai pas pleuré, mais moi, je suis très énervé pendant les scènes. Là. Puis, quand elle finit, elle finit. C'était bien.
On peut peut-être parler de la première rencontre entre le fantôme et la cantatrice. C'est au détour d'un couloir. La première rencontre est très quotidienne, comme si on croisait quelqu'un.
Mais pas très quotidien parce qu'il se passe dans un couloir. Vous savez, les couloirs pour moi sont des lieux très importants, sont des choses importantes, un peu freudiennes. Non, les couloirs, c'est quelque chose d'important, comme les portes. Sont. Et alors, s'il se passe dans un couloir parce que c'est évolu, ça. Il donne aussi une impression un peu étrange. C'est normal, mais c'est pas normal parce qu'elle marche dans cette couloir. En boisserie, non? Et puis avance, il y a quelqu'un qui ne la regarde pas, et elle sent cette pensée cette présence forte, non?
Mais est-ce que, d'une certaine façon, les réalisateurs de films d'épouvante et de films fantastiques ne sont pas, depuis le début, des metteurs en scène d'opéra? Parce qu'entre les grandes divas, ou certains grands personnages du répertoire lyrique, comme Lucia della Mermur, Salomé ou Electra, c'est quasiment des héroïnes de films fantastiques ou de films d'épouvante. Comment vous voyez ce face-à-face entre, je ne sais pas, moi, Jamie Lee Curtis et Maria Callas, par exemple?
Si, mais c'est vrai ça. Hein. C'est vrai ça, que l'opéra, c'est beaucoup près du cinéma spectaculaire d'horreur, parce que presque tous les opéras sont des histoires sanguinaires. Je pense aussi à Verdi. Tous les opéras de Verdi, il y a un minimum 7-8 morts. Il y a vraiment d'un carnage. Je pense à la terrible à Rigoletto, que c'est vraiment...
Rigoletto, vous avez manqué de mettre en scène.
Oui, ouais. C'est ça qui m'a très poussé. Puis, ils m'ont fait une autre fois, mais j'ai dit non, j'ai déjà fait un film sur ça.
Pourtant, il y a une tradition en Italie du metteur en scène de cinéma, metteur en scène d'opéra. Visconti a mis en scène l'Amédée de Cherubini, Don Carlos de Verdi, donc vous pourriez vous attaquer à Salomé. Oui. Genre Salomé par Dario Argento, ça fait
non,
plus.
Non, mais ils m'ont...
pour l'opéra italien. Marc.
À la Scala italienne de Milan, Riccardo Muti m'a offert de faire une mise en scène. Mais c'était l'année passée et moi j'étais...
De quel opéra?
Ben, il faut la choisir. Mm-hmm. Parce que moi, je disais... de faire un opéra fort comme Rigoletto, ou puis comme La Forza del Destino, come o come Anna Bolena, che c'était des opéras terribles.
Il y a des femmes décapitées, là.
Sì, ouais. Terrible. Mais lui disait c'était mieux, mais peut-être, de faire les contes d'Hoffmann qui sont plus un peu plus rêvé, mais je ne pensais pas, j'aime beaucoup la chose.
Vous voulez faire absolument physique. Un opéra italien, pas un opéra
allemand? Non, j'aime beaucoup les opéras français aussi.
Pelléas?
C'est très intéressant.
Il y a ce très beau plan dans le film où l'une de celles qui part avec son copain chercher le trésor dans les catacombes de l'opéra se met à crier et vous la filmez assez longtemps. Et je pense qu'il y a à peu près que vous qui aurez pu filmer quelqu'un en train de crier de cette façon, comme la Carlotta en train de chanter, cette même fascination de la bouche, de la glotte. Et pour vous, est-ce que un chant d'opéra ou un cri d'opéra est aussi un cri de peur ou d'horreur?
Peut-être. Aussi, dans la fin du film Ténèbres, il a le cri de Dario Nicolodi qui criait pour 3 minutes. Mm-hmm. Alors, c'est notre cri très long. C'est comme un chant, c'est
comme musical. Des performances de coloratures, ça.
Si, c'est musical.
Jean-Yves Bochet.
Oui, Dario Argento, pour revenir un petit peu à votre façon de mettre en scène, votre façon de montrer les choses, montrer l'horreur ou la peur, comme ça, dans les films qui jalonnent votre œuvre, vous venez tout à l'heure de dire que vous ne saviez pas trop pourquoi beaucoup d'eau, pourquoi des femmes, pourquoi l'obsession des rideaux, comme ça. Notamment, j'ai remarqué que dans quelques-uns, dans pas mal de vos films, vous, en ce qui concerne la mort, les morts brutales qui jalonnent comme ça vos récits, il y a une tendance souvent à la mort par décapitation ou par décollation. Par perforation. Est-ce que c'est une obsession qui revient? Est-ce que vous pouvez l'expliquer, ça? Ou est-ce que c'est comme les rideaux, l'eau?
Non, c'est... Vraiment, j'avais jamais pensé exactement pourquoi. Mais ça, je retourne beaucoup de fois, oui. Dans les films Trauma, c'était tous les films. Comme, aussi, il avait, dans les premières scènes, il avait un hymne à la Révolution française, parce que c'était oui. la grande période où les gens criaient et étaient joyeux en voyant une personne décapitée. Et aussi, l'assassin, il inventait une guillotine mobile. Très facile à transporter.
Avec un fil comme un fil de fer.
C'est comme Black and Decker. Je suis inspiré par une publicité de Black and Decker qui faisait voir toutes les possibilités de cet instrument à batterie. Et je vais penser aussi à une autre possibilité. C'est la même, mais dans une autre façon. Alors, et existe cette chose. Nous avons inventé, nous avons fait. En Amérique, il fonctionne. Je ne sais pas si peut décapiter, mais il marche. Cette petite machine.
Et Dario Argento, parlons de l'opéra en tant que lieu. C'est un petit peu le condensé de toute votre fantasmatique, si j'ose dire, des lieux, puisqu'on y trouve des couloirs, des portes, des tentures. Il y a un lac dessous pour l'Opéra de Paris, à tout le moins. Donc, est-ce que l'opéra n'est pas le lieu de Dario Argento?
Pour le moment, c'est mon lieu. Pour les prochains films, il sera un autre lieu pour moi. Pour le moment, c'est mon lieu. C'est le lieu fantastique, le lieu du conte de fées, non? C'est le lieu où on peut vivre. Ça, les rêves, c'est aussi qu'on peut vivre dans l'opéra, parce qu'il y a aussi des chambres pour manger, dormir. Et j'ai vu beaucoup de gens qui vivent dans l'opéra, qui dorment, qui ont la télévision, qui ont des petits appartements. Et moi, c'est magnifique, c'est pour moi de tourner à Cinecittà et aussi vivre. Pour moi, ce serait le rêve de ma vie, parce que le matin, tu vas et tu tournes, et puis, quand c'est fini, tu entres dans ta maison qui est là, dans le théâtre, près du théâtre, non? Et à Cinecittà, il y a quelques petits appartements, parce qu'on dit que quelquefois Fellini s'est fini trop tard et dormait et vivait là. Et alors, il avait un appartement avec une petite cuisine. Mais je pensais que c'était trop présomptueux de dire que je voudrais vivre là, alors jamais. Mais j'ai beaucoup d'envie de personnes qui vivent, parce qu'à l'Opéra de Paris aussi, il y a des personnes qui vivent là-bas, qui toute l'année, toute sa vie. Quelqu'un sont des gardiens ou non, des custodes. Ils habitent là, ils vivent toute sa vie, ils mangent, ils ont sa vie, ses femmes, ses enfants. C'est vraiment étrange, bizarre.
Catherine Cayava, l'imaginaire d'un réalisateur peut prendre avant tout évidemment la forme d'un film, mais ça peut également prendre la forme d'une boutique, une boutique que vous avez visitée à Rome.
Dans la Via dei Gracchi, c'est une surprise totale. Lorsqu'on avance dans cette rue qui est une rue à arcades, c'est dans un quartier de bureaux non loin d'une gare routière. La plupart des commerces sont des fast-food ou des snacks self-service où tout le monde se précipite à l'heure du repas. Mais lorsqu'on arrive à la hauteur du numéro 260, l'atmosphère change complètement. Vous avez l'impression de voir une goutte de sang rouge sur la peau blanche de la rue.
Alors répétez l'adresse, au 260
Via dei Gracchi. C'est un petit magasin qui s'appelle Profondo Rosso, du titre d'un de vos films. Il est encaissé sous une des arches de la rue et il agit véritablement comme un aimant. D'ailleurs, j'y suis allé deux fois et les deux fois, le chauffeur de taxi m'a dit « Ah, vous allez voir le magasin !»
Alors, en italien, ça donne quoi ?
Non, je vous épargnerai mon accent. Mais l'endroit est le rendez-vous de tous les amateurs de fantastique et il faut dire que la taille de la vitrine, qui est très étroite, fait comme une focalisation pour le regard. La vitrine regorge d'objets hétéroclites, il y a de tout, des outils pour collectionneurs de Freddy Krueger, de Jason, d'Alien, de Star Trek, de Star Wars, et également dans des coins entassés des éditions originales de grands titres de SF en italien et en anglais. Mais le véritable amateur de mauvais genre va vraiment trouver son bonheur à l'intérieur. On devine, au-delà de la vitrine, tout un monde des formes assez inhabituelles. Il est impossible de résister, on entre. Au-delà des comic books, des statuettes, des affiches, des disques, l'amateur de fantastique trouve une petite porte peinte en rouge, en pierre, un escalier qui descend, tout est sombre en bas, une petite grille et un petit panneau vous annonce « Vous allez entrer dans le musée de l'horreur de Dario Argento ». L'atmosphère est créée et on se retrouve en bas dans une cave où sont préparées des petites scénettes. Certaines viennent de films, d'autres font plus appel à votre imagination. Les murs bougent dans la lumière très étudiée. On a l'impression en fait de se retrouver dans un de vos films. On retrouve un enfant qui hurle, des grilles de prison, des scènes d'opéra, de démons. Alors pourquoi est-ce que vous avez eu envie de passer du film à une espèce de réalité bien physique qu'on peut vraiment toucher et de créer ce monde assez...
C'est une chose que j'ai faite vraiment parce qu'il n'y avait pas en Italie un lieu pour se rencontrer les gens qui aiment ça. C'est comme une sorte de consorterie. C'est comme, parce que la critique, il est contre. No? Alors, il y a, pour les autres genres, il y a beaucoup de bibliothèques, de théâtres. Nous, nous n'avons rien. Alors, pour les fanzines aussi, nous avons une collection de fanzines, la plus grande d'Italie, qui arrive de tout le monde. C'est la seule place où on peut acheter des fanzines au cinéma. Et aussi de la musique. Et alors, j'avais pensé qu'il peut devenir ce petit lieu comme un lieu de rencontre des gens, pas seulement italiens, mais de partout, qui veulent parler de mes films, aussi pas de mes films, des films d'horreur ou de musique, ou films bizarres, étranges, les vieux films américains, les cassettes impossibles à trouver, les films qui n'existent pas, et n'existent jamais, et nous avons. Et puis, cette chose, je rencontre des gens qui viennent partout aussi, des Japonais, des Scandinaves, des Français aussi, partout. Et aussi, est devenu un place qui... Tu sais, quand, dans les écoles, quand on fait, comme on dit, un petit voyage, non, qui vient à Rome, et les étudiants, on peut choisir, il y a 5 places où aller, mais la 5e, on peut la choisir.
La chapelle Sixtine.
Et beaucoup choisissent ça, comme 5e. Et alors, il arrive ses pullman, et il arrive 40, 50, 80 garçons ou filles qui entrent tous ensemble. Et nous faisons, avec mon ami, qui était un metteur en scène aussi, Luigi Cozzi, pendant l'année, nous faisons aussi des petites shows, des petits spectacles, spécialement à Halloween, no? Des spectacles sur le vampirisme. C'est très intéressant. Dans les musées, il se passe. Il faut que vous verrez quand il y aura le spectacle. C'est plus beau.
Merci d'avoir suivi ce mauvais genre, préparé et animé ce soir par Claire Martin-Dugard, Marie-Catherine Cayava, Jean-Baptiste Torré, Jean-Yves Bochet et Martin-Pierre Baudry. La réalisation était de Bernard Treton. Bonsoir à tous.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 9 février 1999.